Boulevard Higgins, le matin à l'antenne de Boulevard 102.1 pour nous rejoindre, 418-971-1021 par texto. Merci beaucoup, vous avez été plusieurs à répondre. On se posait la question, Jacinthe, une clôture en frost, comment ça se dit en français? Une clôture maille de chaîne.
Maille de chaîne, merci.
Yes, alors merci beaucoup, vous êtes les meilleurs auditeurs en ville. Également pour nous joindre par téléphone, 418-780-1021. Je vous invite à nous écouter sur notre application, d'autant plus cet été, car vous allez vous déplacer un peu partout au Québec, au Canada, aux États-Unis. Alors, c'est disponible sur l'App Store et le Google Play BLVD 102.1. Comme promis, Farnell Morisset vient s'installer avec nous en studio. Monsieur Morisset, comment allez-vous?
Ça va très bien.
Oh, attends une minute. Vas-y.
Ça va mieux maintenant qu'on m'entend, mais ça allait bien avant aussi.
Oui, excellent, oui. Excellent. Farnell, avant que tu arrives en onde, et je sais que c'est pas le sujet de ta chronique, mais je veux t'entendre là-dessus. On a parlé du candidat démocrate à la mairie de New York, Zohran Mamdani, qui a gagné à la surprise générale les primaires démocrates à 33 ans, qui se retrouve candidat pour la mairie de New York et là, qui se lance dans un combat sans merci en immigration contre Donald Trump. Qui est la bibitte Zohran Mamdani?
C'est très intéressant. C'est vrai que pour la plupart des gens, il est sorti de nulle part. Moi, en toute franchise, là, je veux dire, je le connaissais pas avant de commencer à voir sa campagne. Mais M. Mamdani, c'est un immigrant, un musulman qui se dit socialiste démocrate, alors qui se voit dans la même trempe ou la même lignée que Alexandria Ocasio-Cortez et que Bernie Sanders. Alors, c'est un peu, il se voit un peu dans cette lignée-là.
Okay.
Le mot socialiste est un mot qui fait peur à certaines personnes, particulièrement aux États-Unis, mais c'est une mouvance qui gagne du terrain à mesure que, justement, l'aile social-démocrate du Parti démocrate prend justement un peu plus de place et est capable de s'expliquer un peu mieux. Et ce que M. Mamdani a fait, encore une fois, à l'image des autres membres de cette aile-là du Parti démocrate, a fait une campagne des médias sociaux pour une primaire qu'on n'a jamais vue. Puis là, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est une primaire, c'est le processus par lequel on choisit qui va être le candidat à l'élection à la mairie. Alors,
exactement.
M. Mamdani, c'est pas garanti qu'il soit maire.
Non, c'est une course à la chefferie.
C'est une course à la chefferie.
On va comparer avec ce qu'on vient de vivre au gouvernement, au niveau du provincial, avec le Parti libéral.
Oui.
5 candidats qui sont présentés à la chefferie, Pablo Rodriguez qui a été élu.
Oui, alors c'est seulement les membres du Parti démocrate aux États-Unis, à New York plus précisément, qui ont voté. Mais M. Mamdani a fait une campagne sur les médias sociaux qui était une campagne 2025 quand la plupart de ses adversaires faisaient encore des campagnes, je dirais, 1995. Et ça a eu l'effet voulu. Il est allé chercher, il a gagné
le vote des jeunes.
Ben, tu sais, le vote des jeunes aujourd'hui, moi, je connais pas grand monde qui ont
40
ans
et
moins qui sont pas sur les médias sociaux.
Raison,
là.
Chez les médias
c'est
sociaux,
plus
moi, 45. Toi, je suis à Saint-Ève, t'es-tu sur les médias sociaux?
Oui.
Ben oui.
Puis t'as à peu près mon âge?
Oui.
Alors, c'est ça. On peut plus dire que c'est le vote des jeunes maintenant. C'est le vote. Le vote, il est là maintenant. Et puis, M. Mamdani a fait la campagne, qui est allé les chercher, puis il a gagné.
Donc, voilà qui il est. T'en penses quoi de son ambition de surtaxer, justement, les habitants de l'île de Manhattan?
Ben, ça va être intéressant de voir s'il va être capable d'aller chercher les pouvoirs pour le faire. Il est quand même maire. Le maire de New York a une certaine compétence sur les taxes, mais pas complète. Il va falloir qu'il négocie avec Albany, qui est la capitale de l'État de New York. Il va falloir qu'il négocie avec la gouverneure, qui est présentement Kathy Hochul, qui, elle, a dit pas vraiment intéressé. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On va voir, après ça, évidemment, il faut qu'il gagne l'élection pour devenir maire.
Exactement.
En premier. Là, on peut pas mettre la charrette avant les bœufs. Mais c'est une idée qui est intéressante. Pour moi-même, avoir vécu à Manhattan, il y a des gens extrêmement riches à Manhattan qui, oui, peuvent payer un petit peu plus. Mais il y a des gens qui sont pas tant dans la richesse que ça non plus, qui vont avoir de la misère à vivre avec.
Oui, parce qu'il faudra pas que Manhattan devienne une île où il est trop difficile d'habiter, comme l'île de Montréal, par exemple.
Ce serait à éviter. Je veux dire, moi, je me souviens quand j'ai réalisé que le caissier, ou l'équivalent du dépanneur, là, deli, ou dans lequel j'allais acheter mon café tous les matins, lui, il faut qu'il fasse 45 minutes pour venir travailler dans le marché du coin, là, parce que c'est la seule place où il est capable de vivre. Il y a un problème là-dessus. Alors, on va voir, est-ce que c'est une taxe seulement sur les gens très riches? Mm-hmm. Est-ce que c'est une taxe seulement sur les propriétés qui sont évaluées à plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars, comme il n'en manque pas à Manhattan? On va voir, ça va être quoi exactement.
Quand je me promène aux États-Unis, surtout quand je fais la route du Maine pour me rendre jusqu'à Boston, je me promène sur l'autoroute qui est là et je vois à peu près à chaque maison un grand drapeau américain. Les gens sont fiers, sont patriotiques, ils aiment leur pays. Est-ce que Mark Carney est en train de transformer le Canada en États-Unis 2.0 avec le patriotisme et son projet de loi C2? Est-ce que Mark Carney veut qu'on ait notre drapeau du Canada devant notre maison?
Je suis sûr que Mark Carney fait cette aspiration-là, mais je sais pas pour vous. Hier, moi, je suis pas sorti fêter particulièrement, là, puis j'ai pas vu grand monde non plus.
Ouais, c'est parce que t'es au Québec?
Ben, je pense que c'est probablement en partie ça. T'sais, c'est okay. Sûr que ça, c'est pas la même chose partout, mais... Le projet de loi C2, je suis content qu'on en parle parce que ça fait plusieurs mois maintenant que c'est en développement, c'est encore en cheminement au Parlement. Mais ça, pardon, ça passe un peu. Je pense que ça ne reçoit pas assez d'attention pour ce que
non,
ça
ben, en
fait.
En effet, on a plus entendu parler du projet de loi C5, oui, justement exactement. Pour les grands projets où on allait passer par-dessus plusieurs étapes là, pour qu'on les fasse de façon accélérée.
Oui, le projet de loi C5 est un projet de loi qui fait 12 pages. En termes de projet de loi, relativement court, assez facile à comprendre. Le projet de loi C2, il en fait 140. Et il a été déposé avant le projet de loi C5. Alors, on peut, même à la vitesse qui a été déposée après l'élection, on peut s'imaginer que c'est probablement un projet de loi qui était déjà en branle avant l'élection. Et c'est un projet de loi qui est nominalement à propos de la sécurité à la frontière, mais qui fait beaucoup, beaucoup plus de choses que ça. Alors, probablement que c'est un projet de loi qui cadre justement dans les négociations qu'on a eues avec les États-Unis sur la sécurité à la frontière. Mais il y a des choses importantes qui se passent dans ce projet de loi-là. Et ce serait impossible de parler de tout ce que le projet de loi fait en une quinzaine de minutes. Là. C'est comme je disais, il est énorme le projet de loi, 140 pages, 15 sections, 16 sections, quelques annexes. Mais il y a deux choses en particulier que je pense valent la peine quand même de souligner. La première, c'est que si vous avez un téléphone dans votre poche présentement, par exemple, ben, ce téléphone-là est un fournisseur au sens de la loi, la personne qui vous l'a vendu, la personne qui vous vend le service de cellulaire. Et ben, la première chose que le projet de loi fait, c'est qu'à partir de l'adoption du projet de loi, si un policier a un simple doute raisonnable, s'il suspecte que des informations sur votre téléphone par votre fournisseur pourrait être lié à l'investigation d'une infraction, même pas nécessairement un crime, là, juste une infraction, le policier peut après ça aller demander à votre fournisseur de cellulaire de dire « Bon, peux-tu me confirmer que oui, cette personne-là est un de tes clients? Peux-tu me dire à partir de quand il est devenu client? Peux-tu me dire tous les autres fournisseurs dont tu es conscient que cette personne-là fait affaire? » Alors, par exemple, si vous avez WhatsApp sur votre téléphone, ben WhatsApp aussi est un fournisseur. Alors, si votre compagnie de cellulaire sait que vous avez téléchargé WhatsApp, il va être obligé de le dire aussi. Et ça, il n'est pas capable avec ça d'aller voir, par exemple, vos messages textes ou quoi que ce soit. Mais juste ça, c'est quand même énormément d'informations qu'il est capable d'aller chercher sur vous sans mandat, sur un simple doute que peut-être que ça pourrait aider à faire l'enquête sur une infraction, peut-être même pas une infraction que vous avez commis vous-même. C'est très, très, très large. Et ce pouvoir-là, après ça, vient se coupler à un peu le deuxième élément que je pense qu'il est important de parler du projet de loi C2, qui est qu'à partir de l'adoption du projet de loi C2, tous les fournisseurs de communication, alors qu'une fois, que ce soit iMessenger ou peu importe, s'ils ont de l'information sur vous, ces fournisseurs-là vont être... vont avoir la possibilité de se faire obliger par le gouvernement de créer des accès plus faciles, de faciliter l'accès...
Pour les enquêteurs?
Pour les enquêteurs. Et là-dessus, il faut quand même dire, les règles d'accès à l'information sont les mêmes. Alors, on parle encore des seuils élevés des enquêtes ou des mandats, mais ça veut dire que, par exemple, il y a des applications qui disent « c'est sécurisé d'un bout à l'autre, c'est impossible que qui que ce soit voit ce qui se passe dans vos communications », bien, si le gouvernement dit à ces applications-là « créez-nous une porte d'accès parce que nous, on a besoin de le voir ».
Alors là, ça sera plus vrai.
Ça sera plus vrai. Mais non seulement ça sera plus vrai, les fournisseurs de ces services-là n'auront pas le droit de vous le dire parce que ces ordres-là sont secrets.
OK. Donc, on va continuer à dire aux clients « hey, il n'y a pas de trouble sur notre application, c'est secret, il n'y a rien qui peut arriver », mais dans les faits, l'enquêteur peut s'ingérer.
Il pourrait, on le saura pas, on peut pas le savoir parce que c'est des ordres qui vont être obligatoirement gardés secrets entre le gouvernement et les fournisseurs de services. Peut-être que c'est vrai, peut-être qu'ils vont réellement dire non, on n'est pas capable, mais nous en tant qu'utilisateurs, on ne peut pas avoir la certitude.
On parle avec Farnell Morissette du projet de loi C2 qui est présentement à l'étude au niveau du gouvernement fédéral. Projet de loi amené par le Parti libéral du Canada et son chef et le premier ministre Mark Carney. Pourquoi on veut faire ça? Est-ce qu'on craint justement de monter du crime organisé au Canada? Est-ce qu'on craint des attaques terroristes? Qu'est-ce qui explique qu'on veut se lancer là-dessus immédiatement?
C'est en lien avec, comme je disais, le projet de loi C2 qui est sur la sécurité à la frontière. Mm-hmm. Alors, on peut s'imaginer que...
Donc, on veut faire bonne figure face à Donald Trump aussi dans les négociations?
Oui, je pense qu'en partie, c'est ça. Mais tu sais, il y a des raisons qu'on peut comprendre que le gouvernement aimerait avoir l'accès à cette information-là. Si le crime organisé, en effet, utilise des applications comme WhatsApp, comme mm-hmm. des messages textes, comme n'importe quoi pour organiser leur criminalité. Alors, tu sais, je peux comprendre aussi qu'il y a 20 ans, ça n'existait pas des services de messagerie qui sont cryptés de A à Z.
En effet.
Alors, peut-être qu'aujourd'hui, le gouvernement se réveille et dit « Bon, ben maintenant, il faut qu'on y ait accès. » Tout comme dans le passé, on avait la possibilité d'avoir accès au téléphone directement, encore une fois, avec un mandat et tout le processus. Alors, le gouvernement et ceux qui sont favorables à ce projet de loi-là vont dire ben, « On est juste en train de mettre à jour les capacités d'accès à l'information privée que le gouvernement a toujours eues. On le met à jour pour une nouvelle réalité où les fournisseurs de services cryptés sont maintenant monnaie courante. Et avant, c'était pas disponible, maintenant, ça l'est. » Mais je trouve que quand même, c'est une discussion qu'on devrait peut-être avoir de façon un peu plus posée. C'est un projet de loi qui a été déposé très rapidement, qui n'a pas fait beaucoup de vagues. Et puis, il y a des raisons légitimes de ne pas vouloir que nos informations, nos communications privées soient trop facilement visibles par le gouvernement.
Bien, je te parle justement, puis c'est intéressant ce que tu dis parce que tu es avocat de formation.
À New York, je le précise toujours, pas au Québec, c'est pas le monde du Québec.
Avocat de formation
à
New York, mais quand même, t'sais, qu'est-ce que ton côté juridique en pense de ça?
Ben, pour moi, c'est pas une question juridique. Pour moi, c'est vraiment une question citoyenne. Et ça revient à dire à quel point est-ce qu'on fait confiance au gouvernement et aux agents du gouvernement. Si on fait totalement confiance que les agents du gouvernement vont jamais faire d'erreur et vont toujours agir de bonne foi, ben là, il y a pas de problème. C'est comme les gens vont dire, c'est la même chose qu'ils ont toujours en théorie eu le droit de faire. Mais ça arrive mm-hmm. des erreurs, que quelqu'un par erreur pense qu'on a peut-être commis un crime puis commence à fouiller dans toutes nos informations-là. Ces informations-là, après ça, sont disponibles au gouvernement. Ouais, on sait pas trop où.
On a un auditeur là, qui nous écrit « C2 n'est pas une loi pour la sécurité, c'est un outil de contrôle, un cadeau aux grandes entreprises et un recul majeur pour nos droits individuels. »
C'est certainement un recul pour les droits à la vie privée ou pour la capacité à la vie privée qui s'est mm-hmm. développée avec justement les nouveaux outils dans probablement les 20 dernières années, oui. Moi, je considère que la capacité d'avoir des communications électroniques privées qui sont entièrement cachées du gouvernement est un droit. Droit qui doit être modéré par exemple, l'obtention d'un mandat par un juge, par des contre-pouvoirs très importants. Et oui, le projet de loi C2 vient ramollir, voire affaiblir beaucoup de ces protections-là. Et c'est adopté de... En tout cas, ça avance à travers son processus législatif. Le projet de loi n'est pas encore adopté. C'est pas trop tard pour parler à votre député, si vous voulez. Mais ça avance de façon très rapide.
Je vous parle à vous deux, à Farnell, à Jacinthe, Ève. On en pense quoi de la stratégie de négociation de Mark Carney? T'sais, moi, j'aime ça regarder derrière le décor de la politique. Là, on a dit plus de surtaxes numériques. Ce projet de loi-là, c'est deux pour renforcer la sécurité à la frontière, qui est une autre demande de Donald Trump. Est-ce que Carney contrôle la situation face aux États-Unis? Est-ce que Carney va nous arriver avec des gains significatifs qui vont venir expliquer justement ces actions-là? Ou c'est Trump qui a le gros bout du bâton?
C'est dur à dire parce que, comme on le voit depuis toujours avec Donald Trump, il négocie sur la place publique.
Ouais.
Ce qui est quelque chose que, généralement, quand on essaie d'avoir des négociations sérieuses, on essaie d'éviter.
Ce que Carney fait pas.
Alors, oui, Trump, on l'a vu coup d'éclat en fin de semaine, semaine passée, où il dit « Ah, bon, ben, le Canada a imposé sa taxe, on s'en va. » Ça, c'est le genre de chose qui est quand même monnaie courante mm-hmm. dans les négociations, mais ça se fait en privé. Alors, quelqu'un va dire « Bon, ben là, vous venez d'imposer cette taxe-là. Pour nous, c'est mort-né. On n'est pas capable de négocier une entente avec vous qui inclut cette
ben ouais, la taxe. » On va faire un comparatif qui va toucher les gens de Québec, la grève au RTC des employés d'entretien. Bon, ben ouais. Jusqu'à présent, ça se passait derrière des portes closes. Puis là, on comprenait très bien qu'il y en avait qui se retiraient de temps à autre des négociations puis que ça avançait pas du tout, qu'on venait avec des nouvelles demandes. Là, la bombe est tombée. La Ville de Québec a dit « Hey, c'est 30% d'augmentation qu'ils demandent sur 5 ans. On n'a pas cette capacité financière-là. » Donc là, ils ont décidé de négocier sur la place publique pour mettre de la pression sur le syndicat des employés d'entretien. Fait que Trump fait un peu la même chose, oui. Mais à plus grande échelle, et il l'utilise plus souvent.
Et c'est que ça transforme ce qu'on voudrait avoir comme une négociation, disons, de bonne foi, strictement économique, en un enjeu politique électoral où la réputation et puis la bonne figure déjà sont en jeu, ça brouille la capacité d'avoir une négociation franche et directe parce que justement, ça transforme ça en un enjeu politique.
Jacinthe Varel, est-ce que Carney avance bien ses choses ou Trump... est en train d'en faire une marionnette, quand je vais prendre ce terme-là.
Bien, Farnell, en nous expliquant le projet de loi C2, tu l'as dit, Farnell, c'est un gros projet de loi, c'est un projet de loi omnibus qui vient changer tellement de choses qu'en une chronique à la radio, on ne peut pas faire le tour de tout ce qui implique...
Que ça concerne.
Oui, mais pour moi, le projet de loi C2 est la démonstration parfaite que Mark Carney marche main dans la main avec Donald Trump. Il y a ce qu'il dit.
Et ça,
dit,
c'est
là,
bon signe.
Il y a le show, là. Ce que vous voyez de soi-disant confrontation, puis d'aller-retour, puis d'éclat, qui est animé par Donald Trump, parce que tu l'as bien dit, Farnell, Mark Carney est plutôt discret. Mais en toute discrétion, si vous vous intéressez à ces projets de loi-là, C2, C5 aussi, vous vous rendez compte qu'on est vraiment en totale harmonie avec ce qui est exigé par Donald Trump.
Donc, Trump a encore un grand respect de Mark Carney dans le processus de négociation.
Absolument. Et je vais revenir sur ces deux.
Ben oui, vas-y.
Il y a la clause Henri VIII qui est incluse dans le projet de loi C2, qui est quand même très, très particulière, qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Puis j'aimerais t'entendre là-dessus, Farnell, parce que la clause Henri VIII permet à un ministre ou à l'exécutif là, de modifier une loi par règlement ou par décret sans devoir repasser par tout le processus législatif. Normalement, quand on veut changer une loi, faut passer à travers le processus législatif. Mais là, ça autorise le ministre de la Sécurité publique à modifier, abroger ou remplacer certaines dispositions législatives là, par simple décret, tout simplement comme ça. Donc, ça inclut là, d'ajouter ou de supprimer des pays de la liste des pays sûrs. Donc, ça a des impacts sur le droit d'asile. On peut modifier des critères d'entrée ou d'expulsion d'immigrants parce que ça vise aussi à travailler sur l'immigration irrégulière ou illégale, là, dépendamment de comment on de notre vocabulaire. Puis ça permet aussi au ministre de reconfigurer des procédures d'audience en matière d'immigration ou de sécurité nationale. Bref, on peut vraiment contourner le Parlement. Puis il y a une absence on donne énormément de pouvoir au ministre. Quand le ministre doit collaborer avec le président des États-Unis dans une situation d'urgence, ça peut être bien pratique, mais en même temps, il y a aussi
une dérive au niveau des pouvoirs provinciaux aussi.
Oui, qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que particulièrement la question des tiers pays sûrs, ça c'est quelque chose qui a été un très gros enjeu pendant la première administration Trump, parce que c'est là qu'on a commencé à voir la vague d'immigration clandestine qui est passée par la colle. T'sais, la colle, essentiellement, le petit chemin qui était là,
oui,
qui est
vraiment
devenu là, l'image de tous les problèmes d'immigration qu'il y avait au Canada.
Ça en prend toujours des images en politique.
C'est une image parlante. Là. Je l'ai vu, là, le petit chemin. Là.
On en parlait tout à l'heure. Il y a Alligator, Alcatraz, puis il y avait le chemin de la colle. T'sais, ça en prend des images.
Alors, cette image-là vient du fait que le Canada et les États-Unis ont une entente de tiers pays sûrs dans lequel... Un immigrant qui arrive, un demandeur d'asile qui vient des États-Unis est, à toute fin pratique, automatiquement disqualifié d'une demande d'asile au Canada. Renégocier ça par voie parlementaire, je suis d'accord que ce serait la voie idéale, c'est ce qu'on devrait essayer de faire. Probablement, quand on a adopté cette loi-là, au niveau parlementaire, on se disait, voyons donc, jamais on va vouloir modifier le statut des États-Unis. Ça serait ridicule s'imaginer qu'on doive le faire rapidement et de façon peut-être déconnectée de la vue publique par justement l'entremise du pouvoir exécutif, par le pouvoir d'un ministre. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, on change d'administration aux États-Unis, puis là, soudainement, les États-Unis sont ou ne sont peut-être plus un tiers pays sûr pour certains types de demandeurs d'asile. Je suis d'accord. Dans un monde idéal, je voudrais que ce soit quelque chose qui est débattu de façon parlementaire, parce que c'est une loi. Puis ça, c'est on a chargé nos élus de prendre cette décision-là. Eux, après ça, vont la déléguer au ministre. J'aime pas tant ça.
Mais pour toi, le temps presse trop pour passer par ce processus-là?
Pour moi, c'est plus une question de réel politique de la chose. C'est que si on commence à avoir des débats au Parlement sur est-ce que les États-Unis sont ou ne sont plus un tiers pays sûr, ben c'est sûr que les médias aux États-Unis vont reprendre ça. Puis après ça, Donald Trump va réagir. J'aime pas ça.
Je
pense pas qu'on devrait commencer à réécrire nos lois en fonction de qu'est-ce que CNN puis Fox News vont en dire.
Ouais.
Mais je vois le raisonnement, ça le justifie pas. Selon moi, je suis d'accord avec Jacinthe là-dessus, mais je comprends l'enjeu politique.
Ben dans le
derrière.
Contexte politique à l'heure actuelle de 51e État, etc.
Si on peut reclassifier sur la douce sans trop que ça fasse de vagues les États-Unis, je pense que c'est peut-être ça l'objectif. Peut-être que c'est de concert avec les États-Unis aussi. Peut-être que les autres aussi veulent dire, écoute, nous, on veut pas qu'on aille à gérer la réalité politique que le Canada est en train d'avoir un débat à savoir si les États-Unis sont encore un pays sûr ou non. Alors, faites-le sur la douce, parle-nous-en pas, ça va passer comme dans du beurre. Mais non, j'aime pas que ça fonctionne de cette façon-là.
Jacinthe-Ève, je te laisse le mot final, vu que Farnell est un gars super courtois, je le sais. Qu'est-ce que tu penses de ce que Farnell explique, justement? Est-ce que ça te satisfait, toi, qui voudrais que ça soit débattu au Parlement?
Ah, ben,
le projet de loi C2?
Non, ça m'inquiète beaucoup. Moi, ça m'inquiète beaucoup parce que c'est un cheval de Troie législatif. C'est vraiment un cheval de Troie. Puis un cheval de Troie, ben, tu peux mettre n'importe quoi dedans. Ouais.
Et c'est des pouvoirs qui vont rester après ça aussi.
Ouais, exactement.
À n'importe quelle administration.
Ouais. Merci beaucoup, Farnell Morisset, pour ta présence en ondes et nous avoir éclairé sur ce projet de loi. C'est deux projets de loi très intéressants. J'adore quand tu arrives avec un sujet comme ça qui passe sous le radar, puis tu nous l'amènes justement à la lumière, puis tu nous fais questionner sur ces sujets d'importance qui se passent à la Chambre des communes ou à l'Assemblée nationale ou ailleurs dans le monde. Merci beaucoup.
Merci, oui.
Vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. C'est Boulevard Against le matin. Vous venez d'avoir la chronique de Farnell Morisset sur le projet de loi C2 du gouvernement canadien. On s'en va en pause publicitaire et par la suite, on va faire le tour des principales manchettes avec Mathias Turcotte. Notamment, je veux qu'on revienne sur, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui passent ces deux ponts à l'heure actuelle, donc on n'a pas besoin de troisième lien. Vrai ou faux? Je veux vous entendre là-dessus par texto au 418-971-1021. Tout l'été. Summertime. Foutier.